La reconnaissez, chers auditeurs, cette musique de Manu Dibango. Et oui, la Méridienne est de retour dans nos studios. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi trois invités. Ce sont les étudiants, les étudiantes d'ailleurs, Relais Santé. Vous avez l'habitude de les entendre sur nos ondes depuis au moins 2 ans et nous en sommes ravis. Alors, je vais commencer par ouvrir le premier micro. Bonjour Margot.
Bonjour Mélissa.
Alors merci à vous trois d'être ici. Je vais allumer les autres micros puisqu'en effet il y a 2 autres étudiantes. Peut-être voulez-vous vous présenter également.
Du coup bonjour, je m'appelle Victoria, je suis en 3e année de médecine à la fac de Tours. Voilà.
Et bonjour, moi je m'appelle Maud et je suis aussi à la faculté de Tours en études de médecine en 3e année.
Alors peut-être pour commencer, voulez-vous rappeler à nos auditeurs c'est quoi les étudiants Relais Santé, quelles sont vos missions?
Alors les étudiants en Relais Santé, ce sont des étudiants qui interviennent pour faire de la prévention de la santé auprès donc, des autres étudiants sur les différents sites de l'université. Donc le service de santé universitaire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un lieu où les étudiants peuvent aller pour se faire soigner gratuitement, sans avance de frais. Ils peuvent rencontrer différents professionnels médicaux, donc il y a des infirmières, des médecins généralistes, des gynécologues, un dentiste une fois par mois, un psychiatre aussi une fois par mois. Des psychologues, une assistante sociale, une diététicienne, et je crois que j'en oublie pas.
Non, je pense qu'on a fait le tour.
Et donc les étudiants Relais Santé, leur rôle, c'est vraiment donc d'être le relais entre ces professionnels-là et les étudiants, leur expliquer un petit peu comment ils peuvent les joindre, et puis aussi on mène quelques actions sur le terrain, plusieurs actions de prévention. On est divisé en 3 équipes, bah, je laisse mes collègues prendre le relais.
Alors du coup, les 3 équipes, donc on est donc en fait au total on est même plus que ça. En fait, on est 3 sous-groupes du coup sur l'université de Tours, mais on a aussi du coup 2 étudiants qui sont sur l'université de Blois, qui eux vont vraiment s'occuper en fait des 3 thématiques qu'on traite nous à Tours. Donc du coup, le premier groupe, ça va être le groupe addiction et soirées festives. Voilà, et on aura ensuite du coup le on aura aussi du coup le groupe bien-être et du coup le groupe de qui s'occupe plus de la vie affective et sexuelle. Et après on a aussi en fait cette année, la petite nouveauté de cette année, c'est qu'on a aussi une étudiante qui s'occupe de la communication, qui permet un petit peu de gérer les réseaux sociaux pour que les étudiants soient un petit peu plus au courant de ce qu'on fait. Voilà, et on a aussi une étudiante relais handicap qui permet de s'occuper en fait de tous les tuteurs qui s'occupent des étudiants qui ont besoin.
Alors je me tourne vers vous, mesdames. Alors si jamais des auditeurs nous écoutent, on l'espère, est-ce que c'est gratuit le service de santé universitaire?
Oui, bien sûr, c'est gratuit pour les étudiants. Alors c'est sans avance de frais, c'est-à-dire qu'il faut venir avec sa carte vitale et avoir une mutuelle, et on n'a pas besoin donc d'avancer les frais, donc pour les étudiants n'ont rien à payer effectivement.
Et c'est pour les étudiants étrangers?
Alors pour les étudiants étrangers, effectivement c'est parfois un petit peu plus compliqué, mais normalement les étudiants étrangers sont aussi pris en charge, ils peuvent aussi aller au service de santé universitaire, sachant que comme pour eux il y a des démarches un peu spéciales, ils peuvent aussi d'ailleurs voir l'assistante sociale pour les aider justement dans ces démarches pour qu'ils n'aient ensuite rien à payer.
Et il y avait été question aussi de, je ne sais pas si on peut dire ça, mais de bons pour aller voir un professionnel psychologue, psychiatre, si on est dans des situations de mal-être pour les étudiants. Est-ce qu'on peut utiliser ces bons avec le service de santé universitaire?
Alors, je pense que vous parlez du dispositif santé psy étudiant. J'aurais tendance à vous dire que oui, après, ces bons-là sont à utiliser chez des psychologues que d'habitude qu'il faut payer. Donc, comme au service de santé universitaire, il n'y a pas besoin de payer, finalement, on n'a pas besoin de ces bons pour aller voir un psychologue au service de santé universitaire. On n'a pas attendu d'avoir ce dispositif-là pour que les étudiants qui en aient besoin puissent voir un psychologue s'ils ne vont pas bien.
Et est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des files d'attente, est-ce qu'il y a des listes d'attente pour aller consulter ces professionnels-là?
Alors ça, je dirais que ça dépend des professionnels, mais en principe, les délais sont quand même assez rapides.
Oui, normalement, il me semble qu'il y a en fait, il faut appeler donc au SSU pour prendre rendez-vous. Normalement, en fait, on est pris en charge par un infirmier qui ensuite, en fait, évalue notre situation et nous redirige, par exemple, soit vers un assistant social, soit vers un psychologue. Mais enfin, voilà, il y a vraiment ce petit temps de latence-là, mais normalement, c'est assez rapide.
Sachant que pour prendre rendez-vous au SSU, on peut le faire par téléphone, on peut aussi le faire par le site internet. Donc voilà, il y a différentes façons de prendre rendez-vous et ça permet qu'on puisse un petit peu... à prendre en charge correctement et puis prendre en charge rapidement, surtout pour les consultations.
Voilà. Après, comme on vous l'a dit au début, il y a certains professionnels qui sont là qu'une fois par mois, donc notamment le dentiste et le psychiatre. Donc forcément, il y a peut-être un petit peu plus de délai sur ces professionnels-là, mais dans l'idée, c'est quand même de pouvoir intervenir rapidement auprès des étudiants et qu'ils n'aient pas trop de temps à attendre.
Alors qu'est-ce qui se passe en fait si il y a un besoin urgent, je sais pas, pour une rage de dents ou quelque chose comme ça et que le dentiste n'est pas là? Comment ça fonctionne? Est-ce que vous pouvez réorienter les étudiants vers d'autres professionnels? Comment ça marche?
Normalement, il me semble les professionnels du coup du SSU ont une liste en fait d'autres médecins ou dentistes ou de professions médicales présents sur Tours. Et en fait, il me semble qu'il y a même un peu, pas un partenariat avec le SSU, mais en tout cas, ils sont raffiliés un petit peu au SSU, même s'ils travaillent en ville.
Bon, merci déjà, peut-être. Voulez-vous nous expliquer pourquoi on a envie d'être étudiant relais santé?
Alors,
vas-y,
vas-y, Victoria.
Moi, en fait, j'en avais entendu parler en fait l'année dernière. Je connaissais pas vraiment avant, mais j'avais une amie en fait qui était étudiante relais santé. Et en fait, j'avais découvert un petit peu par Instagram. Je pense que j'étais une des rares personnes au début à suivre ça parce que c'était pas, enfin, en tout cas, dans mon entourage, on suivait pas forcément l'université Tours et tout ça sur Insta ou sur les réseaux. Et en fait, moi, j'avais découvert ça parce que justement, elle avait partagé une publication. Et en fait, après, je lui avais posé plein de questions. Je lui avais dit, ok. Qu'est-ce que c'est les étudiants relais santé? Et en fait, du coup, elle m'avait un peu expliqué tous les projets qu'ils étaient en train de faire, elle m'avait expliqué les trois groupes qu'il y avait. Et du coup, nous, en tout cas, dans le domaine médical, on est beaucoup attirés par tout ce qui est prévention. On a vraiment envie, en fait, de pouvoir donner les clés aux gens pour pour améliorer leur santé, pour qu'ils puissent eux-mêmes réfléchir, en fait, sur plein de thématiques. Et du coup, moi, je sais que ça m'avait beaucoup intéressée, et je m'étais dit, ok, peut-être tenter l'année prochaine, et au final, voilà, ça s'est fait. Et je suis très contente d'être là.
Alors moi, j'ai pu travailler avec les ERS de l'année dernière. En fait, j'ai eu des formations, parce que j'étais dans une association avec la fac de médecine. Et donc voilà, j'ai pu avoir des formations sur la prévention, par exemple, sur la détresse psychologique des étudiants. Et en fait, c'était en relation avec les ERS. Et à ce moment-là, je me suis demandé qu'est-ce que c'était que les ERS. Donc en fait, c'est des professionnels du SSU qui m'ont expliqué, qui m'ont dit que en fait, les étudiants, n'importe quel étudiant de l'université de Tours pouvait être ERS si on postulait. Et voilà, il y avait des entretiens à faire et tout ça. Mais que si on était motivé et si on était intéressé par la prévention, par juste le fait d'aider les autres simplement, on pouvait se motiver à passer les entretiens, en tout cas à postuler, puis voir si ça nous intéressait. Moi, ça m'a intéressé et voilà.
Moi, c'est un petit peu par vocation, si je peux dire. J'étais l'année dernière en licence de psychologie et je souhaite devenir psychologue. Et moi, j'avais postulé au groupe de prévention des addictions parce que c'est le domaine dans lequel je voudrais travailler. Et c'est vrai que c'est des thématiques qui m'ont toujours beaucoup touchée, de faire de la prévention sur les addictions. Donc j'ai découvert ça un petit peu par hasard, en fait, en voyant passer l'offre, la proposition d'emploi. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer et pourquoi pas postuler. Mener des actions sur le terrain pour faire de la prévention, c'est vraiment quelque chose que je voulais faire à un moment donné dans mon cursus. Donc j'ai vu cette opportunité-là et effectivement j'ai postulé et puis me voilà avec vous.
Et comment vous réagissez par exemple à l'actualité? Parce que là il y a quelque chose qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux justement de Tours notamment, c'est le fait que des étudiantes se sont vues droguées en fait par du GHB. Elles ont eu cette substance mise à leur insu, évidemment, dans leur boisson, dans des lieux festifs de Tours. Donc cette info-là, qu'est-ce que vous en faites en tant qu'étudiante relais santé?
Alors justement, dans le groupe donc Addiction et Prévention des risques en soirée festive, nous, ça fait depuis un petit moment qu'on a suivi le sujet et qu'on en entend parler. Donc on est en train de mettre en place des actions. On a déjà partagé des petits messages de prévention via les réseaux sociaux. On est en train de mettre en place des cup condoms. Donc vous savez, c'est les protections pour les verres. Donc on fait en sorte de pouvoir en distribuer. Souvent sur les soirées festives, on accompagne les associations étudiantes dans les soirées festives et on leur propose du matériel de prévention. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir ajouter ça déjà dans le matériel qu'on pourra fournir aux associations étudiantes pour s'assurer qu'il n'y ait pas de soucis dans les verres. Après, bah, nous, on est là pour faire de la prévention, donc on ne pourra pas... Si une étudiante s'est faite droguer, on ne peut pas, évidemment... On n'est pas des soignants, hein, donc on ne peut pas la prendre en charge comme ça, et c'est pas, ce ne sera pas à nous de l'aider, mais on peut l'orienter. Une étudiante peut très bien venir voir les ERS, c'est aussi notre rôle de dire, bon, bah... Si vous arrivez ça, vous pouvez aller voir tel professionnel, il faut aller faire un test dans un laboratoire. Et puis, bah, évidemment, le mieux, c'est d'aller porter plainte, hein, même si ce n'est pas évident. Mais voilà, donc nous, en tout cas, de toute façon, c'est un dossier qu'on suit très clairement hein, avec le groupe Addiction. On est mobilisés là-dedans, on veut absolument pouvoir proposer des cup condoms. Et puis, effectivement, mener des actions, pas seulement... Voilà, on a les réseaux sociaux pour prévenir et dire « faire attention ». On le répétera jamais assez, effectivement, qu'il faut faire attention à son verre en soirée. Voilà, après, on n'a pas non plus des moyens d'action de professionnels. Hein. On est des étudiants avant tout. Mais effectivement, je pense que si des étudiantes ont besoin d'en parler, ne serait-ce que pour savoir vers qui elles peuvent se tourner, ben, on sera capable de les orienter et de leur dire où est-ce qu'elles peuvent aller.
Vous pouvez peut-être rappeler d'ailleurs, c'est quoi le GHB? Pourquoi c'est ennuyeux, disons, ludiquement, qu'on en est dans son verre?
Le GHB, c'est une drogue qui agit un petit peu comme un somnifère, il me semble. Alors après, les filles en médecine, vous savez peut-être un petit peu mieux que moi exactement comment ça marche.
En fait, c'est que c'est un rôle amnésique. Donc en fait, c'est qu'on va pas se rappeler, on va avoir des pertes de mémoire. Voilà, ça peut être total ou ça peut être par...
C'est des personnes, en fait, qui vont, quand elles vont se réveiller, elles vont avoir aucun souvenir de leur soirée, quoi. En gros, c'est ça.
Donc là, on fait le lien que c'est quand même souvent des jeunes femmes qui ont cette substance-là mise dans leur... dans leur verre, donc c'est-à-dire que le lendemain, en revenant de la soirée, c'est impossible de se rappeler avec qui on est parti, avec qui on est rentré, qui a pu emmener vos affaires, qui vous a fait quoi.
C'est ça. Alors après, on sait que c'est beaucoup des jeunes femmes, mais il y a aussi des hommes, hein, il faut le dire, c'est important. Ce qui a été constaté aussi sur Tours, c'est que dans plusieurs cas, c'est même pas pour les agressions, c'est qu'a priori, il y aurait des personnes que ça amuse beaucoup de voir juste les effets que ça a sur quelqu'un de lui mettre du GHB dans son verre. Mais oui, de toute façon, ça c'est sûr que c'est pas, enfin, c'est un réveil le lendemain. On n'a pas de souvenir, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est pour ça que c'est important de faire attention à son verre. Et puis c'est pour ça que faut pas hésiter à aller porter plainte hein, une fois qu'on a vu qu'on avait bien du GHB dans le sang. C'est une drogue, c'est illégal. Personne n'a à mettre ça dans votre verre, les filles et les garçons. Donc ne vous laissez pas faire hein, face à ça.
Non, puis peut-être aussi rappeler aux gens que ça amuserait, bon...
Oui, puis les gens que ça amuserait, ce n'est pas drôle, hein, c'est pas du tout une expérience agréable à vivre.
Non, c'est condamnable.
Bah, c'est illégal. Voilà. Hein. Donc je pense que la peine risque d'être lourde, si on veut s'amuser, entre guillemets. Voilà, il y a quand même des conséquences graves pour les autres, et c'est illégal. Voilà, merci pour l'ambiance que je viens d'instaurer dans cette émission. Mais oui, donc on peut rappeler aussi en fait de soirée que les étudiants Relais Santé, vous avez aussi, je crois, pour mission d'accompagner les associations étudiantes qui souhaitent se lancer. Justement, donc tu l'expliquais, hein, qu'il y avait des kits de survie, disons, qui étaient mis à disposition, mais il y a peut-être tout l'accompagnement en amont de la soirée qui peut être fait aussi.
Bah c'est ça, donc ça, bon, c'est le rôle de l'équipe Addiction dont je fais partie. Donc effectivement, on fournit du matériel de prévention aux associations étudiantes pour leurs événements, donc des préservatifs, des bouchons d'oreilles, des éthylotests, de la documentation sur les risques de l'alcool, de la drogue, sur le consentement, etc. Ce qu'il faut savoir aussi, et des fois les associations étudiantes ne le savent pas, donc s'il y a des membres d'associations étudiantes qui nous écoutent, c'est le moment de noter. Une association qui veut organiser un événement doit obligatoirement en fait, nous contacter et passer avec nous un petit entretien pour faire le point justement sur l'organisation et sur ce qui peut être mis en place en termes de prévention. C'est obligatoire. Donc un événement, normalement, ne peut pas avoir un événement associatif étudiant ne peut pas avoir lieu sans ce petit entretien. Et rassurez-vous, on n'est pas là non plus, on n'est pas des flics, hein, on n'est pas là pour vous dire faut faire ça, ça, ça et on va venir vous surveiller. Pas du tout, c'est juste histoire de faire le point et d'en discuter ensemble. Et après, nous, l'équipe Addiction, on peut aussi, on propose aussi d'intervenir pendant la soirée. Donc par exemple, soit ça peut être tenir un stand de prévention donc pour distribuer justement le matériel qu'on propose. Ça peut être aussi proposer des petites activités, par exemple les lunettes de simulation d'ébriété. Donc qui sont des lunettes qui nous permettent de constater ce que ça fait quand on a un peu d'alcool dans le sang. On propose aussi, par exemple, un bar à cocktail sans alcool. Alors, samedi dernier, on intervenait justement sur le mini-gala de Polytech, par exemple, où on leur a fait donc, des cocktails sans alcool. Ils sont bons, donc en plus de ça, c'est sympa. Ça change un peu de juste le coca ou l'iced tea, c'est un petit peu plus élaboré. Ça donne un peu plus l'impression d'avoir vraiment une vraie boisson de soirée, mais c'est sans alcool. Voilà ce qu'on peut proposer. Et puis après, je pense, mes deux collègues, vous pouvez aussi présenter vos deux équipes. Hein, parce qu'on est là, un membre de chaque équipe avec vous aujourd'hui.
Ça tombe bien.
Ça tombe bien.
Alors du coup, le deuxième, un des autres groupes qu'on a, c'est le groupe vie sexuelle et affective. Donc c'est le groupe du coup dont je fais partie. Nous, en fait, on va avoir plusieurs types d'interventions pendant l'année. Donc en fait, on va notamment accompagner en fait, les professionnels de santé qui vont faire des actions de dépistage des IST sur les différents sites universitaires. Donc ça va être, il va y en avoir plusieurs normalement pendant l'année. Et du coup, nous, en fait, à ce moment-là, nous, forcément, on n'est pas habilité à faire les dépistages, mais on va être là pour orienter les étudiants, les informer, leur parler justement des IST, etc. Et après, en fait, nous, le gros projet un petit peu central, en fait, qu'on reprend qui avait été mis en place, enfin, qui a été commencé l'année dernière, c'est un projet, en fait, un petit peu particulier, parce que ça va être sous forme de réalité virtuelle, pardon. En fait, ça va être un petit peu pour aborder tout ce qui est question des violences sexuelles, en fait, pendant les soirées. Donc, ça rejoint aussi un petit peu, du coup, le groupe ça rejoint le groupe du coup d'addiction et de soirées festives. Et donc, en fait, on va avoir plusieurs interventions. Donc, le premier lieu qu'on va viser, ça va être Polytech. Donc, parce qu'en fait, on cherche vraiment à cibler plus, les hommes, parce que la plupart du temps, en fait, on a remarqué quand on faisait des actions de prévention comme ça, en fait, on a beaucoup plus de jeunes filles en fait qui viennent, on a très peu de garçons. Donc là, le but aussi, c'est de changer un petit peu le format pour pouvoir un petit peu attirer en fait un autre public et pouvoir aborder ces questions-là avec eux, parce que c'est hyper important en fait que il n'y ait pas qu'une partie de la population qui ait conscience de tout ça et qui sache discuter de ça, parce que c'est encore vraiment tabou aujourd'hui. Et du coup, donc voilà, ça va être notre première on va dire grosse intervention. Et voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Après, on aura d'autres petites interventions, notamment sur la question du consentement, mais sous vraiment des formats un petit peu plus classiques.
Comment on adapte ces interventions, justement, pour cibler un public plus large et notamment aller plus aussi vers les garçons?
Là, justement, du coup, nous, on a changé le format. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de partir en fait sous ce format. Enfin, du coup c'était pas nous, c'était l'équipe de l'année dernière, mais sous un format de réalité virtuelle pour pouvoir en fait aborder les choses un petit peu différemment, parce que c'est vrai que quand on aborde un sujet sur la table comme ça, bah il y a des gens que ça met mal à l'aise parce qu'ils sont pas forcément habitués à en parler. Et donc là on s'est dit ok, bah en fait on va les laisser vivre une expérience et ensuite après on va pouvoir en discuter avec eux. Et donc notamment là pour cette intervention là, on va avoir en fait après un groupe de psychologues qui va pouvoir en fait, ça va permettre de discuter avec eux et d'échanger et d'avoir, enfin peut-être de les aider à avoir un regard un peu différent sur certaines choses ou certains actes en fait qui peuvent sembler banals et qui ne le sont pas du tout.
Donc ça veut dire que ce support-là est plus efficace entre guillemets pour
s'adresser... Justement là, ça va être en phase de test, voilà. Entre guillemets, parce que là pour l'instant, enfin c'est vraiment purement expérimental pour l'instant, on n'a pas encore pu mettre ça en place. Là, la première intervention, notamment, normalement, ça va être le 25 novembre, du coup, à Polytech, mais pour l'instant, c'est juste en phase de test et on a hâte de voir les retours qu'on va avoir.
Bah oui, on espère que vous nous en ferez part. Et cette équipe bien-être, alors ?
Ensuite, bah, du coup, pour l'équipe bien-être, l'équipe bien-être, pour moi, comme les trois équipes, on travaille en fait en collaboration constamment. Après, c'est vrai qu'on a vraiment des projets qui sont propres à chaque groupe. Pour ce qui est de vraiment bien-être, on a des détentes à la BU. Alors, ça existait déjà avant, hein, c'est pas une création de cette année, comme les soirées bien-être d'ailleurs. Simplement, l'année dernière, avec l'année qu'on a pu vivre, ça n'a pas pu être mis en place. Donc voilà, là, on le remet en route et puis on essaie un petit peu de le faire à notre sauce aussi, de le remasteriser, donc ça peut être pas mal. Et puis, je pense que ça peut nous faire du bien aussi, parce que bah, c'est l'une des premières choses en présentiel qu'on fait, donc je trouve que c'est pas mal. Voilà, donc la détente à la BU, pour ceux qui connaissent pas, déjà, il y a la première, là, qui va être lancée aux Deux Lions, donc à la fac de droit, le jeudi 21 octobre, donc ça arrive là. Et il y a plein de choses qui sont mises en place, il y a des ateliers de sophrologie, donc en fait, ça dépendra vraiment de la BU dans laquelle on va, et puis des professionnels à ce moment-là qui vont intervenir, mais il y a de la sophrologie, il y a des ateliers de méditation, il y a... bon, on peut boire un... Enfin, ça va dépendre aussi, mais normalement, on a une petite buvette et tout. Bon, là, on n'est pas encore trop sûr, mais et voilà, normalement, ça devrait pouvoir se faire. Et puis, on a des ateliers mandala, enfin, on a plein de choses. On peut apprendre un peu plus sur comment gérer son sommeil, comment gérer aussi ses habitudes alimentaires. Enfin, voilà, et ça, c'est un peu en collaboration aussi avec les addictions, d'ailleurs. Donc voilà pour les détentes BU. Va y avoir aussi la soirée bien-être. Donc la soirée bien-être, ça ressemble un petit peu à la détente BU, mais c'est bien plus gros. Et puis normalement, il y en a une par semestre. Là, la soirée bien-être va pas se faire au premier semestre. Par contre, il y en aura bien une au second semestre. Donc voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est vraiment, vraiment très sympa. Et puis en janvier, on va avoir une action de prévention sur les risques liés au suicide. Voilà, on trouve ça hyper, hyper important d'en parler, notamment après la crise qu'il y a eu avec des gens qui ont été seuls, où ça a été vraiment très compliqué. Donc on s'est dit que voilà, c'était important d'en parler. Et puis bah, c'est qu'aussi, même juste par rapport à nous, par rapport aux étudiants, on est dans des situations de stress. Des fois, on a, par exemple, au niveau des partiels, on va avoir vraiment beaucoup plus de stress. Et je trouve que c'est important d'aborder ces questions-là parce que bah, ça arrive pas qu'aux autres. Donc voilà, je trouvais que ça, c'était important d'en parler. On a les représentations, par exemple, les représentations liées au suicide. Simplement, on se dit toujours que c'est les autres, on se dit toujours que c'est quelqu'un qui est super triste, qui est dans son coin, pas toujours. Donc voilà, un petit peu remettre en question les idées qu'on a, les idées reçues. Et puis le fait qu'on... On peut guérir aussi de cette idée-là de vouloir mettre fin à ses jours. Voilà. Puis il va y avoir une mise en place de groupes de parole. Donc il y a plein de choses qui vont se mettre en place par rapport à ces questions-là. Et voilà. Après, on a plein de choses qui sont en collaboration aussi avec les autres équipes. Sachant que tout à l'heure, on a oublié de dire, mais c'est important, qu'il y a un groupe aussi ERS à Blois. Donc nous, on est de Tours, mais il y a aussi le groupe RSA à Blois. Et puis qu'on a un partenariat avec Infocom pour la communication, sachant que là, vraiment cette année, comme le disait Victoria, on a une RS spécialement pour la communication. Mais on s'est vraiment dit que ça, c'était important. C'était revenu un petit peu quand tout le monde avait discuté que la communication, c'est ça qui fait qu'on a de la visibilité. Et c'est important parce que nos actions, elles sont importantes et puis elles sont bien intentionnées, quoi.
Ouais, c'est vrai que des fois, on sait que les étudiants ne connaissent pas toujours hein, les étudiants Relais Santé. Donc, c'est vrai que bon, la communication, normalement, je pense que cette année, on s'est pas mal investi dessus aussi. Et ouais, ça permettra d'avoir un petit peu plus de monde pour connaître nos actions, parce qu'on en a quand même beaucoup de prévues. Hein. Comme tu as dit, effectivement, on a plusieurs actions qui vont être en partenariat avec un peu tous les groupes. Hein, donc, là, nous, en addiction et bien-être, on va avoir. On prépare un projet. Alors, bon, c'est plus tard, c'est pour le mois de janvier-février. Mais justement, un projet sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour remplacer certaines addictions, notamment le tabac ou l'alcool. Donc, autour des idées, c'est de se monter un projet autour d'une alimentation saine, faire un peu de sport, faire un peu de détente, etc. Donc, voilà.
Je propose de faire une pause musicale, mesdames, comme ça on va pouvoir reprendre notre souffle et poursuivre cette émission, parce que je ne doute pas que vous avez encore plein d'autres choses à nous dire, et je crois que vous vouliez parler d'un projet Covid aussi. Bah oui. Malheureusement, on y est toujours un peu. Donc nous allons écouter Clover, un super trio de jazz. Donc on va écouter Paradigme, c'est le titre voilà, éponyme, puisque l'album s'appelle ainsi. Vous le retrouverez chez le label nantais Yolk Music. C'est vraiment très bien. Sébastien Boisseau, Alban Darche et Jean-Louis Pommier. On écoute ça, on se retrouve tout de suite après dans La Méridienne. Vous écoutez Radio Campus Tours. Trio Clover sur Radio Campus Tours. Vous écoutez toujours La Méridienne et je vais laisser la parole à nos trois invités, Margot, Victoria et Maud, étudiantes relais-santé à l'Université de Tours. Je crois que c'est la minute Covid.
Alors, je ne sais pas qui veut prendre la parole, allez-y. Hein.
Pour parler un petit peu du Covid, c'est vrai que bon, c'est jamais un sujet qui ravit tout le monde. Mais voilà, nous on voulait, enfin en tout cas à notre échelle, on voulait vous rappeler qu'il y a des centres de vaccination et des centres de dépistage. Voilà, sachant que le dépistage, il est payant à partir du 15 octobre.
Oui, donc c'est maintenant.
Déjà, voilà.
Ouais, déjà depuis payant. Vendredi dernier.
C'est ça. Et puis les centres de vaccination, c'est sous rendez-vous et c'est gratuit. Voilà. Donc on vous rappelle, il y a Bretonneau, il y a Trousseau, donc c'est les hôpitaux. Il y a au niveau des Halles aussi. Et puis, il y a les. Pour le dépistage, bah, il y a les laboratoires. Et puis, si je ne me trompe pas, s'il y en a peut-être d'autres.
Et après, vous pouvez aussi réaliser des tests en pharmacie. Et même, normalement, certaines pharmacies font maintenant la vaccination, si je ne me trompe pas.
Oui, tout à fait. Et il y a un centre de vaccination aussi à Saint-Cyr-sur-Loire et à Jouer-les-Tours, évidemment. Il n'y a pas que sur Tours. Le SSU, pour, je le dis pour les étudiants, le SSU ne fait pas indirectement les vaccinations. Mais bah, on peut de toute façon, voilà, on peut vous dire où aller et effectivement insister sur le fait que bah, la vaccination, c'est bien gratuit. Hein. Les tests sont devenus payants, mais pas la vaccination.
Et il me semble que les tests sont uniquement payants pour les personnes qui ne sont pas vaccinées. Quand on est vacciné, normalement, en fait, on peut faire un test et normalement, ce sera pris en charge.
Eh bien, merci à toutes les trois pour ce rappel important. Oui, voilà, vous avez évoqué déjà quelques actions que vous allez mener prochainement, mais je crois qu'il y en a plein d'autres. Alors, je vous laisse nous en dire plus.
Alors, on a un gros programme hein, aussi, donc je ne sais pas si l'une de vous...
On a un agenda un petit peu chargé pour l'année.
Déjà, voilà.
Mais c'est bien parce que du coup, avec le retour... un peu après cette période de Covid, c'est vraiment chouette de pouvoir faire des choses en présentiel parce que toute l'année dernière, en fait, les étudiants Relais Santé qui étaient avant nous n'ont pas pu faire beaucoup de projets, enfin en tout cas les mener à bout et sur le terrain. Donc nous, on reprend le flambeau avec plaisir. Du coup, la première action en fait qui a lieu, ça va être cette semaine, enfin les deux premières d'ailleurs. Du coup, donc on a donc le mercredi 20 octobre, en fait, on va être à la faculté de pharmacie. On sera normalement entre 3 et 4 étudiants relais santé sur la journée. Et en fait, on va accompagner des professionnels de santé pour réaliser des bilans aux étudiants internationaux, des bilans de santé, en fait, pour qu'ils puissent venir vérifier en fait, si leurs vaccinations sont à jour, faire des tests, par exemple, antituberculeux, etc. Donc nous, on va être là pour les orienter. Et en fait, on va avoir plusieurs professionnels de santé sur place qui vont pouvoir vérifier avec eux qu'ils sont bien à jour et ou alors les orienter vers les professionnels adéquats. Donc ça, c'est la première intervention de cette semaine.
Pour la deuxième intervention, le 21 octobre, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la détente à la BU. Donc ça, c'est pareil avec l'équipe bien-être. Et sachant que donc là, ça va être vraiment pour la fac de Lyon, mais il va y en avoir aussi pour les tanneurs, donc la fac des tanneurs. Puis la fac de Grandmont.
Après, le mois prochain, le mois de novembre, certains le savent probablement, hein, c'est le mois sans tabac, c'est tous les ans, puis ça c'est national. Donc nous, évidemment, on va intervenir, sachant qu'on commence déjà à partir de cette semaine à intervenir sur les différents sites de l'université pour justement inciter à venir nous voir quand on va mettre en place le mois sans tabac. Donc nous, l'idée, c'est de proposer des petits défis justement pour arrêter le tabac. Voilà, le mois sans tabac, c'est national, c'est bon, pendant un mois, on essaye d'arrêter le tabac, et donc nous, on va mettre en place des petites choses. On a plein de conseils à donner s'il faut arrêter le tabac, on a plein de petites documentations très intéressantes, on a des petites réglettes, par exemple, aussi, qui permettent de voir combien ça permet d'économiser, des choses comme ça. Enfin, pas que juste des trucs très, très formels, mais voilà, donc on sera là, on sera présent hein, pour le mois sans tabac sur les différents sites de la fac, on l'est même déjà... On commence déjà un petit peu à en parler. Donc bon, c'est un petit peu plus le groupe addiction, mais le groupe bien-être aussi. Enfin, de toute façon, on est un petit peu tous mobilisés là-dessus. Hein. Ça fait partie des projets, justement, où bon, toutes les équipes, on se mobilise un petit peu là-dessus. Voilà. En novembre, il y aura dépistage des IST, hein, c'est ça ?
Ouais, voilà, c'est ça. Donc en fait, courant novembre, on va mettre en place, donc, sur différents sites universitaires, des dépistages IST. On aura aussi une deuxième session, entre guillemets, au deuxième semestre. Donc en fait, là, on n'a pas encore de date vraiment précise, mais pour ça, il ne faut vraiment pas hésiter à nous suivre sur les réseaux, parce que du coup, on met des petites infographies, en fait, un petit peu à l'avance. Donc voilà, si vous voulez être tenu au courant des dates précises de ces actions-là, suivez-nous sur Facebook ou sur Instagram. Voilà. Et ensuite, donc, pour continuer, donc... dans le groupe sexualité, donc c'est ce que tout à l'heure je parlais du projet intervention, donc on appelle ça le projet VR pour réalité virtuelle du coup. Donc là c'est sur la question du consentement et donc on va avoir une première intervention le 25 novembre du coup à Polytech. Donc là normalement on va sortir en fait des liens d'inscription pour pouvoir s'inscrire à l'avance pour ce projet là. Et en fait il y aura aussi normalement des créneaux en fait pour des personnes qui n'ont pas pris rendez-vous. Et donc, pour réexpliquer un petit peu ce que c'est, en gros, le projet réalité virtuelle, c'est en fait une expérience un petit peu inédite, parce qu'en fait, on va proposer donc, aux personnes qui vont venir, en fait, à travers un casque de réalité virtuelle, en fait, de se mettre à la place de l'agresseur, en fait, dans une situation, en fait, de consentement sexuel. Donc, c'est plutôt cyberharcèlement, mais
Mais ça permet vraiment de se mettre en fait dans une autre position, une position dans laquelle on n'est pas habitué à se mettre. Et en fait, c'est un projet qui a été monté conjointement avec les facultés de Lyon 2 et Clermont-Ferrand. Donc en fait, on a trois vidéos différentes qui ont été tournées. Donc nous, du coup, ça va être plus dans la position de l'agresseur, du coup. Mais en fait, on a aussi donc, la position de la victime et la position du public, enfin de quelqu'un de l'extérieur, un témoin. Et donc en fait ces deux vidéos là ont été faites du coup sur d'autres, enfin par d'autres facultés, et donc là cette année nous on va tester déjà, c'est vraiment expérimental, donc on va tester notre vidéo à nous, et en fait l'année prochaine ou les années d'après peut-être que les autres vidéos vont pouvoir aussi être présentées à Tours. Et donc du coup suite à ça on aura des petits entretiens avec des psychologues sur place, voilà, donc vous serez tenus au courant de tout ça, je pense dans les semaines qui vont arriver on va commencer à lancer un petit peu de communication par rapport à ça. Voilà.
Ensuite, c'est pour le deuxième semestre. Donc là, c'est un peu loin, mais bon, on va essayer de quand même vous faire un petit planning. Donc en janvier, il y aura l'action de prévention des risques liés au suicide, hein, ce que je disais tout à l'heure. Donc après savoir la forme que ça va avoir, donc là, on a le temps de voir. Et puis, vous avez déjà pas mal de choses pour le premier semestre, pas mal de choses mises en place pour le premier semestre. Voilà. Puis, on avait envisagé fin janvier, début février pour... avec l'équipe addiction, pour réduire les consommations et les comportements addictifs. Voilà.
Alors ça, on sait déjà un petit peu plus quelle forme ça va prendre, oui. Parce qu'on travaille déjà dessus pour le coup.
Exactement.
Mais effectivement, l'idée, le projet qu'on est en train de monter, c'est un projet sur 3 semaines, où chaque semaine, on va proposer une facette qui permettrait de réduire un petit peu les comportements addictifs. Donc on va avoir du sport, de la détente et l'alimentation. Je ne sais plus exactement dans quel ordre les semaines vont être faites, mais ça va être l'idée. Donc, on est déjà en train de travailler sur proposer des petits ateliers. On aimerait bien proposer un atelier, par exemple, avec... c'était pas une sophrologue, c'était une...
Une diététicienne aussi.
Il y avait la diététicienne et pour la détente, c'était une praticienne shiatsu ou quelque chose comme ça.
Oui, c'est ça, exactement,
voilà.
Oui.
Et puis faire un peu de sport aussi, on aimerait proposer des petits parcours de marche dans la ville. Enfin, voilà, l'idée c'est de pouvoir rassembler plusieurs étudiants et il y aura aussi des petits trucs un peu sur les réseaux sociaux avec des petits quiz, des lots à gagner.
Oui.
Donc ça, suivez-nous pour en savoir un petit peu plus, mais il y aura des lots à gagner. Hein. C'est ça aussi. Voilà. L'idée c'est de rendre ça un petit peu attractif et puis sympathique pour tout le monde. Hein.
Parce qu'on a essayé de faire, parce que l'année dernière c'est ce qui...
Ça avait été fait l'année dernière,
ça avait été fait,
mais uniquement en distanciel sur les réseaux sociaux.
Donc là, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'avoir toujours du distanciel, parce que c'est vrai que des fois, ça peut être plus pratique. Par exemple, pour si on veut faire des recettes, et ensuite, on a juste à envoyer la photo, par exemple. Ou bon, voilà. Même pour le sport, ça peut être plus sympa de faire le sport à la maison, puis ensuite envoyer une petite photo, une petite vidéo, enfin, vous verrez ça. Mais voilà, en distanciel, ça peut être plus pratique, mais on a aussi évidemment mis un point d'honneur à faire des choses en présentiel, parce que voilà, c'est important. Donc, par exemple, oui, comme les marches historiques à Tours, c'est quelque chose qu'on on pensait faire, et puis bon, si ça vous plaît, c'est encore mieux, enfin, c'est super, quoi. Puis ça, voilà, on essaie de faire vraiment quelque chose qui soit en relation avec les consommations et les comportements addictifs, justement pour contrer ça, pour essayer de réduire ça, ces comportements-là, en ayant des comportements plus sains, en tout cas.
Voilà, l'idée, c'est... Bon, ça, on peut se dire que ça ressemble un petit peu à ce qu'on fait pour le mois sans tabac ou les mois sans alcool. C'est pas exactement ça, hein, mais l'idée, c'est juste, pas forcément dans le cadre d'un mois ou d'un événement particulier, mais juste pouvoir proposer des petites alternatives. Parce que arrêter de fumer, notamment, c'est pas quelque chose qu'il faut faire, qu'on fait forcément comme ça d'un seul coup. C'est plus facile si on peut remplacer par autre chose des pratiques plus saines et pouvoir s'occuper. On sait que souvent, l'arrêt du tabac est compliqué, on ressent un petit sentiment de manque, etc. Et donc l'idée, c'est de pouvoir proposer, pouvoir donner des idées, en fait, hein, pour ceux qui aimeraient dire, vous pourrez faire ça, vous pouvez essayer... un peu de sport, vous pouvez essayer un peu de relaxation. Enfin...
C'est ça. Et puis on s'est dit que ça tombait pas mal fin janvier, début février, parce que c'est après les fêtes. Donc reprendre une année un petit peu à... Mais même ça, simplement, oui, les comportements alimentaires. Donc on s'est dit que... Enfin voilà, y a, sur plein d'aspects, en tout cas, d'essayer d'avoir un mode de vie un peu plus sain, avec une année qui recommence, au second semestre, on s'est dit que ça pouvait être pas mal.
C'est les bonnes résolutions, etc. C'est... Voilà.
Qu'est-ce que vous aimeriez dire sur l'état d'esprit des étudiants qui traversent encore ce passage Covid?
Je pense que c'est un petit peu dur de parler pour tous les étudiants, mais de toute façon, on l'a vu hein, que le Covid, je pense le plus difficile avec... On a eu les cours en distanciel hein, ici à Tours, quasiment toutes les filières, je crois qu'il n'y a quasiment aucune filière hein, qui est restée en présentiel. Donc oui, je pense que de toute façon, même nous, hein, on l'a vécu un peu aussi, se retrouver tout seul devant son ordinateur tout le temps, de ne pas pouvoir sortir, de ne pas avoir des amis. Je pense que même ça doit être difficile quand même pour tout le monde hein, d'être confronté à la solitude. Après, l'idée aussi, de toute façon, l'équipe bien-être, vous avez pas mal en parlé, je pense. Hein,
oui, c'est ça. Franchement, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur parce que déjà de base, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que la situation, les situations dans lesquelles on peut être en tant qu'étudiant, c'est déjà de la précarité sur certains aspects. Ça peut être de la solitude aussi, ça peut être des difficultés, de l'angoisse par rapport que ce soit aux études ou même simplement la vie étudiante. Passer d'être chez, dans le foyer familial et puis ensuite d'avoir un appartement tout seul, de devoir gérer des comptes. Il y a plein de choses qui sont effrayantes, je pense, pour les étudiants. On l'a un peu tous vécu à différents niveaux, mais voilà, on s'est dit que c'était important. Puis il y en a qui ont vécu cette fameuse transition. En plus, devant peut-être rester, cloîtré dans leur appartement, tout petit. Enfin, voilà, on en connaît tous. On a vécu une situation vraiment, vraiment particulière là. Ça a été particulièrement difficile. Et puis, c'est comme tout, il y a des gens, voilà, ça a été difficile, mais là maintenant, ils reprennent un peu de vie, tout ça. Il y en a, ça reste très, très, très difficile là, après la crise de reprendre une vie un petit peu normale, de s'adapter, voilà.
Oui, puis surtout qu'on a un peu d'incertitude, on ne sait pas vraiment si on en est sorti ou pas. Enfin,
oui, exactement. Oui.
Ça reste, on le sent bien quand même qu'on n'est pas encore tout à fait sorti de ça. Quoi. On ne sait pas ce qui va se passer plus tard. Et là, ce qui nous est tombé dessus, c'est un peu, c'est inédit. On espère en tout cas pouvoir accompagner les étudiants s'ils en ont besoin. Enfin,
c'est ça. Et puis le fait que nous-mêmes soyons des étudiantes, enfin, étudiants, parce qu'il n'y a pas que des filles dans nos équipes. Mais je pense que ça aide aussi. Ça donne une proximité qui n'est pas la même avec des professionnels. Et puis, c'est qu'on y passe aussi, on comprend aussi. Et on n'est pas du tout dans une posture de sachant. C'est vraiment, on est les mêmes, on vit les mêmes choses à différents niveaux. Et voilà, c'est important d'en parler.
Donc de dire aussi qu'il n'y a pas de jugement et qu'évidemment, c'est confidentiel ce qui peut vous être dit.
Bien sûr,
oui, bah, évidemment. Ouais.
Voilà, peut-être que c'est intéressant de le rappeler parce qu'il y a peut-être des étudiants qui en doutent ou qui hésitent parce qu'ils ont peur. Mais si c'est répété, est-ce qu'on va pas. Enfin, j'imagine, mais donc de dire c'est y a un secret professionnel.
On a une obligation de confidentialité. C'est même dans nos contrats. Hein,
oui, c'est ça, dire, c'est dans nos contrats, c'est dans la charte. On n'est pas là pour. On n'est ni des flics, ni des. Je sais pas.
Puis même au SSU, par exemple, les professionnels de santé, ce qu'on peut se dire aussi, moi je sais que c'est ce que je m'étais posé comme question, par exemple, c'est de se dire, si je vais au service de santé universitaire, il n'y a que des étudiants. Peut-être que, la consultation d'avant, c'était peut-être une collègue à moi ou quelqu'un qui était dans ma classe. Et donc peut-être que peut y avoir des bruits de couloir et tout ça. Et en fait, non. En fait, les professionnels, ils ont le secret médical comme n'importe où, service universitaire ou pas. Il ne faut pas s'inquiéter de ça en tout cas.
Il y a aussi quelque chose, je pense, qui peut être important à dire, c'est qu'au service de santé universitaire, je sais qu'il peut y avoir des étudiants qui, sur certaines questions, ont peur aussi, parce que comme on passe la carte vitale et la carte mutuelle, ont peur que leurs parents soient au courant. Je pense notamment à la mutuelle, certains étudiants sont rattachés à la mutuelle de leurs parents. Il faut savoir qu'au SSU, ils peuvent, sur certains. Je pensais notamment par exemple aux gynécologues qui ont la possibilité. En fait, de s'arranger pour que justement, même les parents, même vos parents, ne sauront pas que vous êtes allé voir un professionnel au SSU. Enfin, on met vraiment l'accent là-dessus, sur cette confidentialité-là. Donc, il n'y a pas. Personne ne sera jugé, personne. Les informations ne seront jamais divulguées. Et voilà, puis ça vaut pour nous aussi. Hein,
Alors peut-être qu'on peut rappeler aux auditeurs et auditrices où trouver toutes vos infos et comment on vient au SSU si on a besoin d'une prise en charge.
Alors du coup, vous pouvez nous retrouver du coup sur Facebook. Donc déjà, on a une page Facebook en fait, étudiants relais santé Tours. Donc vous pouvez nous suivre là-dessus. On annonce en fait toutes les interventions qu'on va faire, Des fois, on relaie aussi des messages de prévention. Et on a aussi, du coup, un compte Instagram. Donc, je crois que c'est ERS Tours ou quelque chose comme
ERS
ça.
ERS de Tours.
Ouais, ERS voilà. de Tours. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous suivre. Et ensuite, on a aussi, sur le site de l'université, on a une page pour expliquer, en fait, exactement nos rôles et où est-ce que vous pouvez nous contacter. Donc, je pense que voilà, ça redirige, du coup, vers les réseaux sociaux. Et après, donc, pour tout ce qui est consultation au SSU, pareil, vous pouvez trouver sur le site de l'université toutes les informations pour contacter le SSU. Et après, voilà, vous avez le numéro de téléphone, l'adresse mail, etc. Donc, n'hésitez pas à nous suivre et à vous rediriger vers le SSU si besoin. Et il n'y a pas, enfin voilà, il n'y a pas du tout de honte à y aller ou même à nous contacter ou quoi que ce soit si vous avez besoin.
Voilà, je voulais juste rajouter que vous pouvez aussi aller bah, tout simplement sur le site. Hein. Vous pouvez y aller pour voilà, demander une consultation. Ça peut être même plus rapide, ça peut être plus simple. Bon, voilà, si vous n'êtes pas loin. C'est au 60 rue du Plat d'Étain. Si vous ne voyez pas trop où c'est à côté de la place Rabelais et on peut y aller avec la ligne 5 du bus, bon, voilà, du fil bleu. Puis ça se voit assez bien quand même l'entrée. Donc voilà. Puis ensuite, vous allez à l'accueil. Puis bah, simplement, il y a des secrétaires qui sont là pour vous accueillir. Elles sont vraiment adorables.
Donc, oui, en plus, c'est vrai,
pour ouais. le coup, pour avoir discuté avec elles, elles sont oui. vraiment adorables. Et puis voilà, vous pouvez avoir des consultations, puis des rendez-vous médicaux quand même qui sont plus rapides. Ils arrivent quand même plus rapidement que si vous allez comme ça voir un médecin en dehors.
Et du coup, les secrétaires, elles sont au bâtiment H, premier étage. Voilà. Sur votre droite, précisément.
Et alors, on vient aussi, bien sûr, avec sa carte vitale, si on en a une.
Voilà, sa carte vitale et sa carte de mutuelle.
Et si on n'a pas de mutuelle ?
Alors, bah, si on n'a pas de mutuelle, normalement, en fait quand il n'y a pas de mutuelle, normalement, il faudrait payer le tiers payant. Après, je pense que pour les étudiants qui auraient vraiment des difficultés, on trouvera toujours une solution au SSU pour faire en sorte qu'il n'y ait rien à payer. Quoi.
C'est ça. Et puis, les professionnels, justement, qui ne sont pas dans l'ance... Enfin, au sein du SSU, au niveau des bâtiments qui ne sont pas là, et qui, ou je ne sais pas, par exemple, la secrétaire peut vous dire bah, là, on n'a plus de place, par exemple, pour ces professionnels-là, mais on a des professionnels qui sont en relation, ce que disait Victoria tout à l'heure, ils sont, eux, dans leur cabinet, mais qui sont en relation avec le SSU. Eux aussi, normalement, font le tiers payant. Normalement, ils se sont engagés à faire le tiers payant. Donc voilà.
Bien, merci à vous trois pour toutes ces explications sur votre rôle d'étudiante relais santé et toutes ces informations. Donc évidemment, on ne manquera pas de rediriger dans le podcast de cette émission vers vos différents sites. Et on va se quitter en écoutant un documentaire de Laura Delpiane, « Mon smartphone m'a rendu fou, pose ton phone », ça s'appelle, et ça à retrouver sur Arte Radio. Bonne journée à tous, à l'écoute de Radio Campus Tours.
D'abord, j'ai eu honte. Honte du regard des autres. Des fois, on sort avec des potes, on va dans un bar. Et à ce moment-là, eux, ils sont tous sur leur téléphone à regarder des trucs sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Lorsque je sors mon vieux téléphone tout pourri, là, qui est pas tactile, sans Internet, par rapport à leur super iPhone, leur super Samsung, enfin, Wiko, il fait un peu pitié, quoi. C'est un peu gênant. Parce que déjà, je me sens... plus timide que tout le monde. Alors là, à ce moment-là, bah, je me sens encore plus en retrait. Je suis Mathieu, j'ai 18 ans, et cet été, j'ai fait un burn-out à cause de mon téléphone portable. Burn-out, c'est mon père qui dit ça, les médecins aussi, mais moi, je l'appelle pas. Avant le burn-out, mon téléphone portable, c'était un peu... C'était ma troisième main, un deuxième cerveau, un bout de cerveau. C'était... Moi, c'était une grosse partie de moi. Sans lui, j'étais pas complet. Déjà le matin, bah, j'aimais bien être au chaud dans mon lit. Pouvoir regarder Facebook, Twitter. Après, j'écoutais de la musique. WhatsApp de Far Non Blonde. Après, je regardais des séries, des vidéos sur YouTube. Je pouvais même pas regarder là dehors parce que j'avais les yeux rivés sur mon portable. Souvent j'avais les volets qui étaient fermés dans le noir. C'est un peu triste. La goutte d'eau de trop, ça va être une brouille avec un pote. Les rires, les pleurs, les engueulades, tout passé par le téléphone. Donc l'embrouille s'est faite par le téléphone aussi. À chaque fois qu'il va vibrer, que l'écran va s'allumer, bah, je vais me dire « Oh mon Dieu, un message !» Qui c'est ? Est-ce que c'est lui ? Bah, comme tout se passait par téléphone, je pensais que la réconciliation allait venir par téléphone aussi. Mais elle va pas venir et... En fait, j'ai rejeté mon sentiment de culpabilité sur mon téléphone. En fait, à partir de là, je vais plus pouvoir dormir. Pendant une semaine, deux semaines. Parce qu'à chaque fois que mon téléphone s'allume, bah j'ai une peur, mais juste irrationnelle, quoi. Je vais trembler, je vais me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ça va vraiment aller très 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 loin, je vais commencer à détester le truc. Je vais juste vouloir que ça s'arrête. Que le téléphone il s'éteigne et que je ne l'utilise plus, mais c'est pas possible parce que ça fait partie de moi. C'est une partie de moi. Et donc ça va être très loin, trop loin. Et je vais commencer vraiment à flipper. Et flipper, flipper, flipper. Je vais avoir l'impression qu'il m'observe, qu'il écoute tout ce que j'ai dit, qu'il entend tout ce que je pense. Un peu comme dans Paranormal Activity. Tout se passe par écran. On voit les gens se faire tuer par les écrans. Donc à ce moment-là, je vais regarder la caméra de mon téléphone et je vais me dire, mais... Qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'observe ? Je mange plus. Je dors plus. Je suis à cran. Enfin, j'ai la larme facile, donc là, à chaque fois que je suis tout seul, bah, je craque. Les médecins, ils m'ont posé des questions pour comprendre. Ils vont me dire si ton téléphone te fait du mal. Si tu commences à stresser, si tu commences à être paranoïaque à cause de lui, bah, mets-le dans un carton, il n'y touche plus. Et je vais le faire. Je vais lâcher mon téléphone. Aujourd'hui alors, j'ai un vieux Wiko que mon frère m'a acheté à la Fnac 20€, sans internet, pas tactile, tout petit. Il peut prendre une photo. Une seule. C'est mon fond d'écran. Quand on voit un message, tu dois prendre une demi-heure parce que c'est des touches encore ABC, DEF, tout ça. Je suis moins dans l'instantané, c'est vrai. Mais bon, ça peut être un peu énervant pour mes potes qui, eux, répondent très vite. Et souvent, j'ai des réponses avant que mes questions soient posées. Donc c'est un peu compliqué. Je prends des nouvelles, mais en appelant les gens. Quelque chose que j'aurais peut-être pas fait avant parce que... Je pensais que les messages, les snaps, c'était plus facile. Mais en fait, non. Tout ça, c'est du virtuel, en fait. C'est pas une réalité. Les messages qu'on envoie, bah, c'est qu'une surface. Alors que quand on parle avec quelqu'un, c'est beaucoup plus profond, en vrai. C'est là que la vérité ressort. Pas par message. En vrai. Je pense avoir retrouvé une véritable partie de moi. Une partie de moi qui me poussait quand j'étais petit à aller toquer chez les gens pour sortir. À lever la tête vers le ciel plutôt que la baisser vers mon portable. Le matin, ce qui est bien, c'est que je suis plus genre sous ma couette à regarder ma série dans le noir. Je me lève, j'ouvre les volets et je regarde le champ qui est derrière chez moi. Des fois, je vais courir. Quand je suis dans le RER par exemple, quand je rentre chez moi, bah, à la place d'aller sur Facebook, sur Twitter, comme je viens de le dire, je lis. Aujourd'hui sur moi, j'ai trois livres. La couleur des sentiments, c'est un livre de 600 pages. C'est un peu long, mais c'est écrit en tout petit. Mais il est juste super. Ensuite, j'ai Arrête avec tes mensonges de Philippe Besson. Et celui-là, j'ai lu vraiment, mais waouh. Je l'ai acheté le mercredi soir, je l'ai fini le jeudi à 1h du matin. Dans le RER en direction de Juvisy-sur-Orange, c'est juste magnifique. Alors que sur les réseaux sociaux, tu peux écrire un texte de 100 lignes qui est magnifique, qui est émouvant, qui peut faire pleurer tout le monde, mais personne ne le lira. Sur les réseaux sociaux, bah, y a pas d'émotion. Au final, bah, j'ai pu améliorer mon style de vie, quoi. J'ai une vie beaucoup plus saine, et ça, j'aurais jamais pu le faire avec mon ancien téléphone.
Arte Radio.
Parce que ça me prenait des heures, des heures, des heures de vie. Et je m'en rendais pas compte.
Je dis bon, mais non.